Fabrice Grinda, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur d'FJ Labs, vous êtes à la fois entrepreneur et investisseur. On va parler avec vous de ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés, pour les investisseurs, mais aussi pour les entrepreneurs. La période, clairement, a changé. On a changé de climat, on pourrait dire. On a vécu, quand on voit des portraits de vous, on parle d'un pionnier du web. On se souvient des années 2000, pour ceux qui étaient là. On se souvient de cette exubérance à un moment donné. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui est en train de se passer sur les marchés, ça rappelle un certain nombre de choses qui ont peut-être déjà eu lieu à d'autres époques?
Oui, en fait, ça rappelle énormément la fin des années 2000, des années 90, où il y a la première bulle d'Internet qui avait gonflé. Ceci dit, même s'il y a eu des exubérances incroyables en 2021, c'est quand même moins exubérant qu'à la fin des années 90, où littéralement j'avais des term sheets faxés par des investisseurs que j'avais jamais rencontrés pour des centaines de millions d'investissements, ce qui était absolument hallucinant. Mais ceci dit, l'année dernière, on est allé à des excès, même si ce n'étaient pas les mêmes excès que la fin des années 90, et on est en train de vivre le retour de la médaille aujourd'hui.
Alors, justement, quand on regarde, vous parliez de ces dossiers, on a pu en voir quelques-uns et on a pu voir surtout une réaction à dévalorisation. Il y a quelques mois, on pouvait encore avoir des valorisations, entre guillemets, qui paraissaient normales. Et aujourd'hui, le même entrepreneur qui viendrait voir l'investisseur, on lui dirait, non, là, ça ne passe pas. Pourquoi?
Ben, en fait, il y a à peu près un an et demi, j'ai écrit un article sur Bienvenue à la bulle de tout, où toutes les classes d'actifs sont devenues surévaluées en termes de valorisation à cause des taux d'intérêt négatifs et en fait d'une politique fiscale et monétaire de tous les États qui était extrêmement libérale. Et dans un monde à taux d'intérêt faible, où les gens recherchaient des retours, ils pouvaient entre guillemets justifier des valorisations plus élevées sur toutes les classes d'actifs. Donc on a vu des valorisations vraiment dans tout. On parle des actions publiques, des compagnies tech privées en late stage, de la crypto, les NFT, etc., l'immobilier qui était surévalué. Or, depuis novembre 2021, la Fed a commencé à augmenter les taux d'intérêt. On est passé d'un Fed funds rate qui était plus ou moins à zéro, qui maintenant, on pense, va monter jusqu'à 5% ou au-delà de 5%, ce qui fait que la valeur des autres actifs, donc on évalue les cash flows à venir, sont discountés par des taux d'intérêt bien plus élevés. Et donc, on ne peut justifier que des valorisations bien, bien plus faibles. Et dans un environnement qui est macroéconomique, qui est moins clément, les gens maintenant font attention au burn, aux unit economics et s'intéressent en fait à la pérennité des entreprises.
Il y a eu plusieurs alertes, j'ai eu l'occasion ici même de les partager avec notamment un certain nombre d'intervenants des marchés financiers qui expliquaient que, par exemple, du côté du capital investissement, il y a eu une tendance au cours des dernières années à aller acheter effectivement une participation à certains prix, la revendre à un second capital VC un peu plus cher, et puis un troisième. Donc, certains n'hésitaient pas à invoquer de fameuses pyramides de Ponzi. Vous qui connaissez bien ce
Oui.
secteur, est-ce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas posé la question quand vous avez vu ce type de phénomène se produire?
Oui, alors je ne pense pas que c'est un effet de pyramide dans la mesure où en plus les gens ne vendaient pas. Au contraire, dans une période de bulle, tout le monde est tellement optimiste, tout le monde voulait acheter plus de parts de toutes ces boîtes, quels que soient les prix. Et il y a très peu de gens qui ont eu des réalisations. Dans les marchés privés notamment, la capacité et la possibilité de vendre est relativement limitée. L'année dernière, voyant ces valorisations extrêmement élevées, qui me rappelait et 2006 et 98-99, dans mon fonds spécifiquement, j'ai dit, OK, on arrête de faire des investissements en late stage et on vend tout ce que l'on peut vendre maintenant dans les marchés privés, qui est le monde dans lequel j'opère, hein, du capital risque. Ce que j'ai pu vendre, c'est peut-être un tiers de ce que j'aurais voulu vendre. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on se trouve dans une position où on est cash rich dans un monde qui nécessite du cash. Donc aujourd'hui, on est bien passé. Mais ça m'a pas fait penser à un effet un réseau de pyramide. Ça m'a plus fait penser à une bulle où tout le monde perdait le sens de la logique et était prêt à investir dans la croissance à tout prix. Et donc, ça donnait lieu à des exagérations et de valorisation et de dépenses auprès des entreprises.
Alors, c'est vrai qu'il faut le rappeler, ça fait des années qu'on a cette politique monétaire qui a été mise en place avec ces taux d'intérêt bas, vous l'avez rappelé. Est-ce que les investisseurs sont, bien sûr, ils sont et en ont profité, vous parliez de l'immobilier, un certain nombre d'investissements sur les actions également, mais est-ce qu'ils se sont pas, on dit parfois qu'ils ont mis des lunettes roses, c'est-à-dire est-ce que bah, finalement ils ont été investir un peu partout, vous parliez des cryptos tout à l'heure, quand on voit les montants qui ont été investis ici et là, on a cherché finalement pendant plusieurs mois, voire quelques années, où était la bulle, où étaient les bulles. Finalement, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y en a partout.
Oui, ben c'est ce que j'ai écrit il y a un an. J'ai dit bienvenue à la bulle de toutes les classes d'actifs où les taux d'intérêt faibles, bon, en fait, avec des taux d'intérêt négatifs, a créé des bulles, je pense, dans quasiment toutes les catégories d'actifs, que ce soit l'immobilier résidentiel, l'immobilier commercial, même si lui, il avait été plus touché par Covid, donc c'était devenu moins fou après ça, les obligations, et d'ailleurs, il y a une énorme bulle dans le marché des obligations où. Était payé aucun retour, aucun rendement, alors qu'on prenait des risques de plus en plus conséquents, les actions et les compagnies cotées, bon, plus les NFT et la crypto, et tout ça est en train d'être corrigé aujourd'hui à un rythme plus ou moins rapide. Et je pense qu'on est en fait qu'au tout début de cette correction. Les gens ont vu que dans la bourse, dans le Nasdaq, on a les boîtes qui ont 20, moins de 20 milliards de valeur, ont perdu 80% de leur valeur depuis un an, même si le Nasdaq lui-même n'a perdu que 20-30%, mais cette correction n'a pas encore eu lieu dans toutes les catégories d'actifs et surtout pas encore dans le monde des late stage privés dans le capital risque.
On parle parfois de retour à la normale salutaire. Alors, ça peut être violent pour les entrepreneurs, pour les investisseurs. Quand on est dans ce type de période, justement, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, voilà, il peut y avoir un moment de panique. On l'a vu sur les marchés, hein, clairement, on a vu ça. Comment on réagit dans ces périodes-là?
Alors, en tant qu'entrepreneur, c'est simple, il faut s'assurer de survivre. La plupart des boîtes que je connais qui ont suffisamment de cash pour ne pas lever pendant les 12-18 prochains mois ne lèvent pas et préservent leur cash. Donc, tout le monde, en moyenne, les boîtes de mon portefeuille ont viré 20% de leurs effectifs, mais j'ai certaines des boîtes qui ont viré jusqu'à 65% de leurs effectifs pour s'assurer de survivre. Donc, en général, tout le monde se serre la ceinture. Tout le monde fait attention à sa pérennité, donc ils soient profitables au niveau unitaire dans leur transaction, même s'ils ne couvrent pas forcément encore leur structure de coûts fixes. Et en tant qu'investisseur, alors là, c'est paradoxal. En early stage, en seed, en A, là où moi j'investis, je suis encore très optimiste parce que sur le long terme, l'histoire bat la macro. Donc si on regarde les récessions depuis 1950, la durée moyenne était de 11, a été de 11 mois. Et la plus longue a été de 24 mois, qui était la grande récession de 2008-2009 et la crise financière 2008-2009. Or, on n'est pas encore entré en récession. Mais la macro qui m'intéresse, moi, comme j'investis dans les boîtes qui vont devenir grosses dans 5-10 ans, c'est dans 7 ans, dans 8 ans, dans 9 ans. Et donc, de manière paradoxale, investir aujourd'hui dans une compagnie jeune qui n'a pas trop besoin de cash, qui va faire attention à ses dépenses, à son modèle économique unitaire, qui va avoir moins de concurrence, qui va augmenter sa probabilité de gagner, pour moi, est intéressant. Donc, dans mon cas, je continue d'investir dans la mesure où l'entrepreneur fait attention à ses dépenses et dans la mesure où il n'a pas besoin de cash dans les 2 ans à venir, quelque part. Donc, cette classe d'actifs spécifique, je suis très optimiste et je pense qu'au contraire, il faut être contre-cyclique. C'est-à-dire que quand tout le monde voulait investir l'année dernière, il fallait vendre, ce que j'ai fait. Et cette année où tout le monde se serre la ceinture, personne n'investit, je pense que dans ce cas-là, il faut investir. Les meilleures entreprises d'investissement du web des années 2010 ont été faites en 2008, 2009, 2010, 2011, jusqu'en 2013. Et c'était Uber, Airbnb, Instagram, WhatsApp, Slack. Parce que justement, il y avait moins de concurrence, les boîtes ont gagné, les valorisations étaient raisonnables, etc.
Oui, comme le disait un gestionnaire d'actifs dont la société est née en même temps que la bourse et la vie TV où vous êtes aujourd'hui, nous sommes nés en 2008, nous n'avons pas fait de gras. C'est plutôt un atout finalement quand on considère effectivement que la période de récession, comme vous l'avez dit, peut être plus ou moins longue.
Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, je suis très, très, très pessimiste sur la macro. Bien plus pessimiste que le consensus général. En fait, il y a plusieurs facteurs qui sont en train de play out tous en même temps. Et un d'entre eux pourrait créer la prochaine récession. Et le fait qu'ils sont en train d'arriver tous en même temps me rend très pessimiste. Alors d'abord, les taux d'intérêt ont monté plus que les gens ne s'attendaient et vont rester plus haut, plus longtemps que les gens ne s'y attendent. Ce qui va dire que les actifs vont continuer de baisser de valeur. Deuxièmement, à cause des intérêts élevés aux États-Unis, le dollar a beaucoup monté, notamment par rapport aux monnaies émergentes. Donc, je pense qu'on va faire face à une crise dans les pays émergents parce que leur dette est dominée en dollars alors que leurs revenus sont en monnaie locale. Et donc, quelque part, leur niveau d'endettement, c'est énormément de remboursement a beaucoup monté. Et on voit déjà que le Sri Lanka a fait faillite. Et je pense qu'on a le Ghana, le Pakistan, etc., qui risquent de faire faillite derrière. On a une récession possible en Allemagne en 2023 à cause des restrictions et du prix du gaz. Il y a possiblement une crise euro qui va arriver avec le taux d'endettement qu'il y a en Italie et dans les PIGS en général, donc Portugal, Italie, et Espagne et Grèce, qui fait que on pourrait imaginer. Alors à terme, je pense que l'Europe fera tout ce qu'il faut pour sauver l'euro, mais que ça va être pénible entre-temps. Plus on a une crise financière qui se prépare parce que toutes les banques font face ont des obligations dans laquelle ou pardon des actifs dont la qualité est en train de baisser. On a des banques comme Crédit Suisse spécifiquement qui sont très 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 fragiles. Et en plus, vu qu'ils ont très exposés aux États, si jamais les États eux-mêmes ont des problèmes ou doivent restructurer leurs dettes, ça recréerait la prochaine crise financière. Je pense que les prix de l'immobilier vont baisser dans quasiment tous les pays du monde, vu qu'on a eu des taux d'hypothèque très très faibles. Alors maintenant, aux États-Unis, on voit que les hypothèques sont passées de 2,5% à 7%. Alors, aux États-Unis, il y a beaucoup d'hypothèques fixes, donc c'est peut-être moins grave, mais on voit que dans les pays où il y a des hypothèques variables, comme au Canada ou en Angleterre, les prix sont déjà en train de baisser. Et on a des pays comme en Australie où ça a déjà baissé de 10% en moins d'un an, ce qui est assez impressionnant. Bien sûr, on a le conflit en Ukraine qui continue de garder le prix du gaz, de la nourriture et du pétrole élevé. Et la Chine qui n'est plus une force de désinflation. Et au contraire, on a un problème géopolitiquement, on est structurellement plus de risques qu'on en a eu par le passé, avec une sorte de double axe qui se crée avec d'un côté l'Iran, la Russie, la Corée du Nord et la Chine, et de l'autre côté, les pays occidentaux. Ce qui fait que toutes ces choses s'imbriquant les uns dans les autres, à mon avis, on va au-delà d'une crise bien plus grave que les gens s'y attendent. Et donc, c'est le moment de faire très, très attention.
Oui, alors dans ce type de scénario, hein, on avait le patron de JP Morgan, Jamie Dimon, qui parlait d'ouragan, lui, en parlant de ce qui se passait sur l'inflation et puis la réduction du bilan de la Fed. Il y avait d'autres alertes qu'on avait pu souligner sur la finance. On peut citer aussi Nouriel Roubini, l'économiste qui avait vu le krach 2008. Alors lui, il est très négatif, hein, sur ces crises. Mais qu'est-ce qui fait que, parce que vous parliez quand même d'optimiste, hein, tout à l'heure, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'investisseur que vous êtes, l'entrepreneur, se dit non, là, ce coup-ci, là, c'est pas possible qu'on passe à travers, on va dire, les gouttes qui sont en l'occurrence de gros nuages noirs, là.
Donc, je pense qu'il y a effectivement ces énormes nuages noirs et qu'on ne va pas passer à travers ces gouttes pendant les 18 prochains mois ou 24 prochains mois. Mais sur le long terme, je suis optimiste parce que sur le long terme, on est encore au tout début de la digitalisation du monde. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être sur le monde du consommateur, on a 20-25% du commerce qui est passé en ligne. Mais quand on regarde les industries principales de ce monde, que ce soit la pétrochimie, l'acier, et en fait tous les éléments, toutes les supply chains en business to business, B2B, on est encore à des niveaux de digitalisation de 1%, et de temps en temps au maximum 5%. Et donc la digitalisation en fait de toutes nos industries va être extrêmement déflationniste et va nous permettre quelque part d'innover, de créer des nouveaux produits qui vont nous permettre de sortir de cette crise, d'autant plus qu'on est en train de voir des innovations extraordinaires au niveau de l'intelligence artificielle, des énergies renouvelables, où aujourd'hui, ça coûte moins cher de créer de l'électricité par du photovoltaïque que de toutes les autres sources. Le coût des batteries, divisé par 10 en 10 ans, va continuer de baisser. Donc, je suis extrêmement optimiste qu'on va pouvoir en fait faire face aux problèmes du monde au 21e siècle, que ce soit l'inégalité d'opportunité, le réchauffement climatique ou le problème de la santé physique et mentale grâce aux technologies. Donc, sur le long terme, la technologie bat la macro. Maintenant, sur 18-24 mois, je suis très pessimiste.
Oui, parce qu'on l'a souvent dit, voilà, la tech qui pouvait aider, mais on voit aussi, il y a d'autres sujets sur la tech qu'on n'abordera pas aujourd'hui qui sont complexes, mais on voit aussi effectivement des consommateurs qui ont basculé avec effectivement le digital. Donc, ce que vous dites, c'est finalement que les technologies vont apporter peut-être la désinflation qu'on n'a pas aujourd'hui ou qu'on a plus, en tout cas, au même niveau avec notamment la Chine. Donc, ça va pouvoir, sur le moyen terme, changer la donne.
Tout à fait. Ah, mais ça va prendre 5 à 10 ans, mais la réinvention en fait, de toutes les industries par le digital va être extraordinairement déflationniste. De la même façon que la technologie au sens large est déflationniste. Maintenant, sur les 40 dernières années, il y avait la mondialisation, notamment avec la Chine, et les technologies qui étaient intercoupées, qui étaient tous les deux déflationnistes. Alors maintenant, la rapatriation ou le déplacement des supply chains de la Chine vers le Mexique, l'Indonésie, l'Inde, à court terme, est inflationniste parce qu'on perd les économies d'échelle, même si sur le long terme, c'est probablement géopolitiquement et stratégiquement la bonne chose à faire. Mais ce qui va nous sauver, ça va être l'impact déflationniste de la technologie. Et la technologie est de manière innée déflationniste depuis en fait 200 ans. Et c'est elle qui a permis d'avoir la croissance dans la qualité de vie qu'on a aujourd'hui.
Alors, il y a eu des vrais débats, on l'a vu, quand on parlait de la Chine, c'est entre la mondialisation, la globalisation, et on commence à voir un certain nombre d'interlocuteurs qui disent, attention, on est en train de... En tout cas, la mondialisation telle qu'elle était n'existera plus, on va passer sur... On a vu des pays se fermer. Vous qui êtes aux États-Unis, qui investissez aux États-Unis, en France, dans d'autres pays, est-ce que vous avez senti aussi ce début de changement, en tout cas sur la mondialisation telle qu'on la voyait jusqu'à présent, c'est-à-dire que presque sans fin?
Alors, la mondialisation change, mais pour des raisons géopolitiques. Où aujourd'hui, comme j'ai dit, on a ces deux axes qui sont créés. On a la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord de côté et les pays occidentaux de l'autre. Et donc, les entreprises occidentales ne veulent pas dépendre de la Chine telle qu'elles l'ont pu par le passé. Et on voit que la plupart, donc les nouveaux iPhones maintenant sont construits en Inde en premier, pas en Chine. Et on est en train de le voir dans en fait, plus ou moins toutes les industries. Maintenant, est-ce que c'est de la démondialisation? Non, il y a encore, par exemple, les États-Unis ne créent pas assez d'ingénieurs pour qu'on puisse produire tout ce qu'ils devraient produire aux États-Unis. Donc, ça va plutôt être un déplacement de cette supply chain depuis la Chine vers l'Inde, les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie, le Vietnam, le Mexique et une partie aux États-Unis plutôt qu'on ramène tout aux États-Unis. C'est pareil en Europe où on va avoir juste un déplacement et une moins grosse prépondérance et dépendance de la Chine vu les enjeux géopolitiques qui sont en train de se créer.
Peut-être pour terminer, j'aimerais bien qu'on ait un regard et que vous portiez un regard sur la jeunesse, qu'elle soit américaine, qu'elle soit européenne, les jeunes qui aujourd'hui ont beaucoup de projets, qui se posent aussi beaucoup de questions sur la société, sur son évolution, que ce soit la transition écologique ou d'autres sujets. On voit cette jeunesse qui s'interroge, parfois se dit bah, ce monde-là est complètement fou et a du mal. Est-ce que justement, par rapport à ce que vous avez dit, vous êtes encore un jeune entrepreneur et investisseur, malgré toute cette expérience, les jeunes que vous rencontrez aujourd'hui, vous leur dites il y a plein de choses à faire, il y a plein de projets à mener aujourd'hui?
Il y a absolument plein de projets à mener. On est au tout début de la révolution technologique et plus il y a de problèmes dans le monde, plus il y a d'opportunités pour les régler. Et donc, comme j'ai dit, il y a trois gros axes de bataille à mes yeux dans le 21e siècle qui est le réchauffement climatique, l'inégalité d'opportunité et un problème sur la santé physique et morale. Et il y a plein de gens et mentales qui s'y attaque. Maintenant, je rencontre plusieurs catégories jeunes. Il y a des jeunes entrepreneurs qui voient ces problèmes et qui veulent s'y attaquer. J'ai une fille adoptive qui a déjà créé plusieurs sociétés et qui est passionnée. Et elle est entourée d'amis comme ça. Il y en a d'autres qui sont plus fatalistes, comme cela a été probablement vrai. Mais je suis très optimiste. Parce que quand je vois, il y a toute une grande partie de la jeunesse, la génération Z, comme ils l'appellent, qui est entreprenante, qui est optimiste, qui veut faire et qui veut faire mieux et qui est engagée socialement et de manière consciente pour résoudre ces problèmes. Donc, je reste extrêmement optimiste.
Vous qui connaissez bien le digital, justement, c'est peut-être cet aimant-là qui est encore plus favorable, c'est-à-dire que par rapport aux générations d'avant, aujourd'hui, on a ce digital qui va pouvoir aider peut-être à aller plus vite dans ces projets.
Absolument. Comme j'ai dit, un des grands problèmes auxquels on fait face aujourd'hui, c'est l'inflation et le digital étant déflationniste. Le propre de l'entrepreneur, c'est de voir un problème, qu'il soit d'habitude des expériences utilisateurs mauvaises ou des modèles économiques extractifs, et de l'attaquer et de s'y attaquer. Et donc, les gens qui utilisent le digital, c'est un outil. Il n'y a pas de moralité en tant que telle. C'est justement parce que c'est plus scalable, c'est efficace en capital et ça permet d'adresser des problèmes au sens large. Donc, je suis très optimiste et sur la génération nouvelle et sur l'utilisation du digital pour résoudre les problèmes auxquels nous faisons face.
Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien, Fabrice Granada. On aura l'occasion, bien entendu, d'en reparler. Et merci pour les jeunes qui nous écoutent, effectivement, de voir tout ce potentiel qu'il peut y avoir. Merci à vous.
Merci.